Il est là dans une minute.
LCL présente Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL.
Devine où j'ai trouvé mon appart.
Bah, une agence immobilière, une petite annonce.
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
France Inter,
première radio de France.
À Paris comme à Madrid, il est 19h. Hélène Philly pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Ariane 5 est en retraite, Ariane 6 en retard. Alors l'Europe utilise l'américain SpaceX pour lancer deux de ses satellites Galileo. C'est une première et la preuve d'une certaine faiblesse de l'Europe spatiale, vous l'entendrez. Le gouvernement reconnaît l'accident de recettes sur les finances publiques, mais pas le laisser faire. Débat d'orientation budgétaire aujourd'hui sans vote à l'Assemblée. Les oppositions menacent d'une motion de censure. L'actualité, c'est encore l'âge de Joe Biden, point critique de la campagne du président sortant aux États-Unis. La folie qui s'empare des supporters du stade brestois. Après la victoire d'hier face à Rennes, il touche du doigt le rêve européen. Et puis la série Parlement mouille la chemise pour inciter les électeurs à voter pour les européennes. Juste après ce journal, on vous retrouve en direct de Madrid, Fabienne.
Et ouais, toujours en direct du café commercial dans une Espagne secouée. Hein. Vous l'avez suivi en même temps que nous par 5 jours de silence de son président du gouvernement. Et pour poursuivre donc notre exploration de ce pays à 6 semaines des européennes, on l'a touché du doigt en première heure. Nous allons nous appesantir sur la place de Vox, l'extrême droite, en Espagne, mais aussi en Europe. Et puis je vous emmènerai, Hélène, faire la connaissance d'Isabelle Coixet, réalisatrice, scénariste, catalane. C'est elle qui cumule le plus de Goya, l'équivalent des Césars. Elle a beaucoup de choses à dire. À tout de suite.
France Inter.
La Commission européenne s'est bien gardée d'en faire la promotion. Pas d'annonce en grande pompe, pas de conférence de presse, un simple tweet passé inaperçu dans la journée d'hier pour confirmer l'envoi de deux satellites Galileo, le GPS européen, non pas avec une fusée européenne, mais avec un lanceur SpaceX américain. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Et c'est une première dans l'histoire de ce programme.
Oui, dans la nuit de samedi à dimanche, la fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral a correctement mis en orbite deux satellites Galileo pour le compte de l'Europe. Cette mission sera suivie d'une autre cette année, conformément au contrat signé entre la Commission européenne et la société américaine. Jusqu'ici, pour ce programme hautement stratégique qui garantit la souveraineté aux 27 pour le positionnement par satellite, civil et militaire, seules deux fusées étaient utilisées, Ariane 5 et Soyouz, opérées depuis la Guyane, donc sous contrôle d'Ariane Espace. Mais avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et la fin d'exploitation des Ariane 5, l'Europe est privée depuis 8 mois de son accès autonome à l'espace. Pour assurer la continuité du service Galileo, il fallait impérativement lancer des satellites. La Commission avait donc fait le choix de se tourner vers SpaceX, qui a réalisé la première des deux missions il y a quelques jours.
Et ça met en lumière la faiblesse actuelle des lanceurs européens.
Oui, cela met l'accent sur les 4 ans de retard du programme Ariane 6. Covid, problèmes techniques, essais sécurisés au maximum. La mission inaugurale est prévue entre le 15 juin et le 31 juillet. Après la fin des Ariane 5 en novembre, cela fait donc 8 mois de trou d'air. Mais le plus surprenant, eh bien, la communication autour de ce dossier. Discrétion maximum, pas de mention de l'opérateur SpaceX, comme si ce nom était devenu tabou pour l'Europe spatiale. Il faut dire que le concurrent américain a de quoi contrarier, une centaine de tirs par an désormais. Oui. Pourtant, le calendrier de commande d'Ariane 6 est plein. Une trentaine de satellites, dont 4 Galileo de la nouvelle génération. Ariane Espace vient de l'annoncer. Les 3 premières années d'exploitation du nouveau lanceur européen sont déjà bien remplies, mais le rythme de croisière prévu est plus modeste. 9 tirs par an.
Éclairage signé Sophie Bécherel, merci à vous. Les États-Unis, où la campagne présidentielle est toujours aussi délétère entre les affaires judiciaires de Donald Trump et l'âge des deux candidats. 77 ans pour l'homme d'affaires, 81 pour Joe Biden. C'est la seule chose que nous avons en commun, a ironisé le président Biden ce week-end au dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Joe Biden masque de plus en plus difficilement ses faiblesses. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Notre correspondant en direct de Washington, un président qui peine à enfiler sa veste à cause du vent, qui cherche son chemin pour quitter une scène ou qui désormais ne marche plus seul jusqu'à son hélicoptère.
Oui, vous avez peut-être déjà vu ces images qui sont presque un rituel de la politique américaine. Le président qui marche tout seul sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, vers ou depuis cet hélicoptère Marine One qu'on entend derrière moi pour quitter ou pour rentrer au bureau ovale. Eh bien, ce moment de quelques dizaines de secondes, Biden n'en veut plus. Il ne veut plus qu'on se concentre en fait sur sa démarche raide, hésitante. Il sait qu'il fait ses 81 ans et que ce court déplacement jusqu'aux 7 marches de l'hélicoptère ne lui rend pas service. Les républicains et des électeurs démocrates le trouvent trop vieux pour être réélu. Biden a donc demandé depuis 2 semaines à être accompagné devant les caméras, à être entouré de conseillers, comme ses chefs de cabinet adjoints par exemple. L'idée est que les téléspectateurs se focalisent un peu moins sur ses pieds qui traînent sur l'herbe et pour faire un peu oublier qu'il est un vieux monsieur en fait tout simplement. Il porte aussi de plus en plus souvent une paire de baskets noires avec de grosses semelles pour être mieux maintenu. Et depuis plusieurs mois déjà, eh bien, il monte dans le Boeing présidentiel Air Force One par un escalier plus court pour qu'on pense moins à son âge et pour limiter aussi les risques de trébucher.
Sébastien Paour en direct de Washington aux États-Unis. Le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza s'intensifie dans les universités. Les manifestants multiplient les occupations ces derniers jours. La police anti-émeute souvent déployée, des centaines d'étudiants arrêtés. On en est très loin en France, mais la police est intervenue à la Sorbonne aujourd'hui pour évacuer une cinquantaine de militants qui avaient installé des tentes à l'intérieur des locaux à la demande du Premier ministre. Et après la mobilisation à Sciences Po la semaine dernière, Valérie Pécresse dit aujourd'hui suspendre les financements de la région Île-de-France à l'établissement. Ça représente autour d'1 million d'euros sur un budget d'un peu plus de 200 millions. Mais quelle est l'ampleur réelle de la mobilisation dans les universités ? Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Est-ce qu'elle touche d'autres campus ?
Eh bien, il commence à y avoir quelques rassemblements, parfois des occupations et des campements dans certaines universités ou établissements. 5 jusqu'à aujourd'hui, d'autres seront sans doute concernés à partir de demain, mais on ne peut pas parler d'un mouvement d'ampleur. Ces actions sont organisées par les comités Palestine créés ces derniers mois dans les universités et qui sont soutenues par l'Union étudiante, le principal syndicat étudiant. Éléonore Schmitt est la porte-parole.
Depuis la mobilisation à Sciences Po la semaine dernière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie fenêtre qui s'est ouverte avec aujourd'hui Saint-Étienne qui était mobilisé, Paris 8, donc à Saint-Denis, Paris 1, Sorbonne, et également l'INALCO, qui est une petite école à Paris. Demain, il y aura également Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lyon et encore Amiens qui seront mobilisés. On a plusieurs modes d'action, donc ça va beaucoup dépendre des différentes villes, des différents types d'établissements aussi. Le plus de modes d'action aussi possible pour arriver à faire monter la pression.
Mais une pression limitée au regard des chiffres, puisque le nombre d'étudiants mobilisés est faible. Une cinquantaine d'occupants, vous le disiez Hélène, cet après-midi à la Sorbonne. À Saint-Étienne, ils étaient une vingtaine, alors que l'université compte 20 000 étudiants.
Sonia Princey. Et au Proche-Orient, une trêve se dessine-t-elle ? Réunion d'importance au Caire entre des représentants d'Égypte et du Qatar, tous deux des pays médiateurs avec les États-Unis et le Hamas. Le chef de la diplomatie américaine juge la proposition qui est sur la table extraordinairement généreuse, l'Égypte dit avoir bon espoir. En France, le gouvernement était cet après-midi sous les tirs croisés des oppositions. Débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée, alors que Bercy cherche de nouveaux milliards d'euros d'économies pour cette année. Débat sans vote, mais le RN et la France Insoumise donnent 30 jours au gouvernement pour qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au Parlement. Faute de quoi, disent-ils, ils déposeront une motion de censure. Le député RN, Jean-Philippe Tanguy.
Votre arrogance et votre prétention à réussir demain là où vous avez échoué prouvent que le ridicule ne tue pas. Vous avez donc 95 milliards à trouver. Aussi, le groupe Rassemblement National demande qu'un projet de loi de finances rectificative soit soumis au Parlement d'ici 30 jours, 149.3. Si au terme de ces 30 jours, le gouvernement persiste à ignorer le Parlement, le groupe Rassemblement National déposera alors une motion de censure. Compte tenu, hélas, du sectarisme délétère qui anime les groupes de cette Assemblée depuis 2 ans, nous savons qu'une motion déposée par le groupe Liotte ou par les Républicains est la plus à même de renverser enfin ce gouvernement. Nous assumerons nos choix devant les Français. Il est temps, chers collègues républicains, que vous assumiez les vôtres.
Le député RN Jean-Philippe Tanguy, réponse du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, il reconnaît un dérapage, mais pas de laisser aller.
Alors oui, il y a eu un accident de recette, je le reconnais bien volontiers, mais n'essayons pas de confondre un accident sur une année avec 7 années dans lesquelles nous avons tenu nos objectifs de déficit et nos objectifs de croissance. Le rétablissement des comptes, ce n'est ni le laisser-aller généralisé que propose la France Insoumise, ni l'hypocrisie du Rassemblement National, qui, sous les habits de la rigueur, présente un programme communiste de dépenses généralisées. Je suis convaincu qu'une majorité de parlementaires, plutôt que le choix de la censure et du chaos, fera celui de la responsabilité.
Échange suivi par Laurence Perron à l'Assemblée. Les finances publiques devenues un angle d'attaque de la campagne des européennes. Les candidats sont en campagne aujourd'hui. Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique à Grenoble. Valérie Ayé pour la majorité présidentielle à Toulouse. Les Insoumis à Trappes et l'écologiste Marie Toussaint était ce matin à Arcueil. Et pour inciter les électeurs à aller voter le 9 juin prochain, l'équipe de Parlement, cette série qui nous a plongé dans les coulisses du travail des eurodéputés avec beaucoup d'humour, eh bien, elle retrousse ses manches en produisant de courtes vidéos pour les réseaux sociaux et elles font mouche, Alexandra Akoun.
Tout le monde peut voter, mais vous vous rendez pas compte, même Gilles.
Condenser l'humour décalé de Parlement et ses personnages ou en couleur pour donner envie d'aller voter. La productrice de la série, Fabienne Servan-Schreiber, européenne convaincue, sollicitée par l'Institut Jean Monnet qui œuvre à la promotion du projet européen, n'a pas hésité longtemps, assumant pleinement un parti pris politique.
Donner les rushs, c'était pas simple du tout. En revanche, faire écrire mes équipes, produire des petits films originaux, on a foncé. On a tous trouvé ça formidable. Vous avez vu les sondages français ? L'extrême droite arrive à quasiment 40%. Et dans d'autres pays européens aussi. On sait quand même que ces gens, ils vont pas défendre l'Europe. Donc l'heure est grave.
De quoi ils s'occupent le Parlement européen ? De rien, ils font rien.
C'est du blabla.
Les normes environnementales quand même.
À part ça,
la libre circulation en Europe.
Ouais, enfin, pas...
C'est pas quoi ?
Déconstruire les préjugés, faire de la pédagogie, là aussi l'esprit de la série, qui nous plonge depuis 3 saisons dans les arcanes des institutions européennes, a été parfaitement respecté.
Tout le monde critique l'Europe, personne ne sait que c'est devenu absolument essentiel à nos vies, ce qui se décide là-bas. Donc, il faut faire aimer, il faut faire connaître, et 30 secondes où tu vois des gens se marrer, ça attire l'attention. Alors après, ils voient le titre, ils se disent, tiens, il se passe quelque chose le 9 juin. C'est ça le pari, bien sûr.
Deux clips circulent déjà sur les réseaux sociaux. D'ici fin mai, il y en aura 8, avec des diffusions également prévues sur France Télévisions, TV5 Monde et France 24.
Alexandra Akoun, le journaliste de France Info, Jean-François Aquili, est licencié pour faute grave, manquement répété aux obligations déontologiques sur les collaborations extérieures, fait savoir Radio France, après les révélations des journaux Le Monde et Libération sur des échanges qu'a eu le journaliste avec le président du Rassemblement National sur l'écriture d'une autobiographie et une activité de média training de chef d'entreprise exercée pendant au moins 10 ans. Et voici un procès qui pose la question de la protection de ceux qui acceptent de collaborer avec la police. Alors que le gouvernement fait de la lutte contre les trafics de drogue une priorité, ce dealer a été violemment agressé en prison après avoir donné des informations aux enquêteurs. Charlotte Piret, ses agresseurs présumés font face à lui aujourd'hui à Bobigny. Il avait prévu de parler mais tout s'est écroulé à l'audience.
C'était pas vrai. En visioconférence depuis la prison où il est incarcéré, le jeune homme rétropédale. Lui qui, un matin novembre, les mains profondément tailladées, les oreilles cisaillées, le torse blessé, avait expliqué qu'il venait de se faire agresser par d'autres détenus en représailles des informations livrées à la police sur leur trafic de stupéfiants. Lui qui, quelques jours après, lors de son procès pour trafic d'héroïne, avait à nouveau balancé son réseau et s'était dit encore menacé pour ça. Son co-détenu avait même été contacté pour le poignarder. Mais aujourd'hui, j'ai fait exprès de mettre des coups de poing dans le mur. Mais monsieur, sur vos mains, sont des traces de cutter, relève le président. C'est parce que le mur est en crépi. Ceux qui sont dans le box n'ont rien à voir avec ça, s'empresse-t-il d'ajouter. Pour le tribunal, ne reste alors plus que les images de vidéosurveillance de la maison d'arrêt de Villepinte. Mais elle s'arrête à la porte des douches. Une heure de va-et-vient, de comportements certes suspects, de détenus qui font le guet, restent trop longtemps dans ces douches, mais rien de tangible. Aucun des surveillants entendus dans la procédure, aucune fouille de cellules, déplore le tribunal dans son délibéré. Alors, même si on peut très largement douter de la véracité des propos du plaignant aujourd'hui, les trois prévenus sont relaxés. Au bénéfice du doute, conclut le président. Cette fois encore, la loi du silence a eu le dessus.
Compte rendu d'audience signée Charlotte Piret. Un adolescent de 15 ans et sa mère présentés à un juge du pôle criminel de Bourges pour homicide volontaire ce soir après le meurtre à l'arme blanche d'un jeune garçon, Matisse, samedi soir en pleine rue à Châteauroux. La garde à vue de Gérald Depardieu est levée. L'acteur, convoqué par les enquêteurs après 2 plaintes pour agression sexuelle déposées par 2 femmes pour des faits qui se seraient déroulés entre 2014 et 2021 sur un tournage. À 19h14, on monte dans le train. dans le TGV M comme modulable, dernier né des usines Alstom pour la SNCF, présenté aujourd'hui à Belfort, avant de le trouver sur les voies, pas avant le second semestre de l'année prochaine. Tout blanc vêtu, on le promet avec plus de sièges et moins gourmand en énergie. Visite guidée avec vous, Maxime Debs.
Mais ce nouveau TGV, son accueil superstar. Fumée bleue et projecteur à sa sortie des entrepôts Alstom ce matin. Ses caractéristiques, sa couleur, vous l'avez dit, blanche pour limiter l'impact des rayons du soleil par forte chaleur. Son nez allongé, surtout pour plus d'aérodynamisme encore.
Il a vraiment une gueule, ce train.
Le patron d'SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, qui énumère ses qualités.
D'abord, plus de place. 20% de place supplémentaire à bord de ce train. Il est modulaire, ce qui veut dire qu'on pourra y mettre plusieurs voitures de seconde, des places pour le vélo. Et aujourd'hui, avec Alstom, nous sommes confiants de pouvoir avoir ces trains à l'été 2025. Nous en avons absolument besoin.
La SNCF qui n'aurait pas dit non, clairement, à ces rames cet été, mais des retards de fabrication en ont décidé autrement, au plus grand regret du directeur général d'Alstom Transport, Jean-Baptiste Eméo.
Oui, ben les retards, si vous voulez, on avait ciblé à l'origine, quand on a signé ce contrat, de mettre en service avant les Jeux Olympiques. C'est ce qui avait été communiqué. Je ne vais pas revenir sur le Covid, mais il y a eu un certain nombre d'aléas techniques et industriels qu'il a fallu gérer. La SNCF. Et aujourd'hui, on arrive avec un train qui quand même va être conforme à ce qu'on attendait de lui.
115 rames au total ont été commandées de ce nouveau train qui seront livrés au compte-gouttes. Les 4-5 premières desserviront le sud-est, réponse à la concurrence de Trenitalia, très agressive ces derniers mois sur l'axe Lyon-Paris.
Et puisqu'on est sur les rails, sachez qu'après le terraillement d'un TER à cause de fortes pluies hier, la circulation des trains entre Givors et Lyon ne reprendra pas avant samedi matin. C'est de plus en plus rare aujourd'hui sur les rings, mais ce week-end, un boxeur congolais est mort après un KO infligé par son adversaire. Le sportif de 27 ans venait de passer plusieurs semaines dans le coma, Emma Sarango.
Le combat remonte au début du mois, le 5 avril, en Floride, à Miami. Hardy Ndembo, un poids lourd congolais de 27 ans, affronte le cubain Nestor Santana. Sur le ring, le congolais reçoit un coup qui le met KO. Il retombe sur la tête, reste inconscient pendant de longues minutes. Vraisemblablement victime d'un traumatisme crânien, il est alors transféré en urgence à l'hôpital de Miami, où il décède donc ce week-end après 3 semaines de coma. Hardy Ndembo, né à Brazzaville, installé aux États-Unis, n'avait jamais perdu en 8 combats professionnels. Son décès survient 2 mois après celui d'un boxeur japonais de 23 ans, après une hémorragie au cerveau.
Emma Sarango, le football côté tuile, c'est cette blessure qui tombe mal à quelques semaines du début de l'Euro de football. Le gardien de l'équipe de France, Mac Maignan, qui joue à l'AC Milan, s'est blessé l'adducteur droit, alors que Didier Deschamps doit annoncer la liste des tricolores retenus le 16 mai prochain. Et le foot côté fête, c'est à Brest que ça se passe. Impressionnant, vainqueur du derby breton hier soir 5-4 face à Rennes. Le stade brestois toujours 3e, précieuse 3e place qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Alors c'est un peu la folie. Aujourd'hui, à la boutique officielle du stade, Valérie Lenigène y est allée y faire un tour.
Stade Brestois, Coupe d'Europe. Stade Brestois, Coupe d'Europe.
Malo n'a que 6 ans et il court dans les rayons de la boutique du Stade Brestois avec une joie de vivre partagée par tous les supporters. Le téléphone de la boutique sonne sans interruption à la recherche de places pour les prochains matchs à domicile, mais il n'y en a plus. Johan Guyader, responsable merchandising.
Il y a un engouement tout autour, que ce soit des abonnés, du public, mais des gens qu'on ne connaissait pas non plus de l'extérieur d'avant.
Dans les rayons de la boutique, des femmes cherchent une casquette pour leur père.
Ah bah oui, hier avec le match, il a vu ça, il a dit « moi je veux la nouvelle casquette ». Enfin la nouvelle, je ne sais pas si elle vient de sortir. Mais...
Bah non, en fait, il a vu celle de l'entraîneur, donc il n'avait pas celle-là, donc forcément il veut celle de l'entraîneur, mais non.
Et puis il y a Jérôme venu faire un cadeau à un copain rennais, ses vaches, et cette famille qui n'est toujours pas redescendue de son petit nuage.
Tous les trois, on est foot et non, c'est important pour Brest qu'ils soient en Coupe d'Europe. C'était par rapport à la saison qu'ils ont fait, c'est énorme, donc c'est mérité pour eux.
Ils méritaient, au début de saison, on ne pensait pas ça, mais après, c'est mérité qu'ils vont en Coupe d'Europe.
Stade Brestois, Coupe d'Europe, Stade Brestois, Coupe d'Europe.
On l'espère évidemment, un reportage de France Bleu, Breizizel. À l'instant, Rafael Nadal se qualifie pour les 8e de finale du Masters de Madrid. Après une 3e victoire d'affilée, Madrid, où l'on retourne dans un instant, juste après la météo.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers, véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Le temps avec vous, Élodie Calac, encore perturbé demain et parfois orageux.
Oui, on retrouvera nos pluies de l'Occitanie vers le centre-Val de Loire, la Bourgogne et la frontière belge, avec des pluies plus marquées du Languedoc-Roussillon aux Cévennes le matin. L'après-midi, encore quelques averses et un axe pluvieux et parfois orageux du Languedoc et de la vallée du Rhône vers la Bourgogne puis la Champagne, avec de la grêle possible, un risque d'orage aussi en remontant vers la frontière belge pour l'après-midi. À l'est, pas mal de nuages, mais du soleil quand même sur l'Alsace. L'après-midi, de la pluie sur les Alpes, ça tournera à l'orage sur le nord-est. De l'Aquitaine vers la Touraine et la Normandie, là ce sera agréable avec du soleil. On a une perturbation tout de même qui arrive ce soir par l'ouest. Elle donnera de bonnes pluies sur la Bretagne demain avec un vent de sud et des nuages jusqu'à la Vendée et au Cotentin.
On gagne quelques degrés.
Oui, il fera souvent 5 à 14 degrés. L'après-midi, 13 degrés seulement à Brest sous la pluie, mais 19 à Lille, Caen, Paris, Angers, 19 aussi à Lyon, Toulouse et Marseille, 22 degrés à Besançon, à Bordeaux, à Nice et 26 degrés du côté de Strasbourg.
Merci beaucoup, Élodie Calac, Météo France.
Demain, Ryan Gosling, invité exceptionnel de la matinale.
France Inter, 7h50, Sonia Deville.
Après le triomphe mondial de Barbie, le chouchou d'Hollywood incarne un cascadeur dans The Fall Guy. À cette occasion, Ryan Gosling nous parle de son vertige, du chien de sa femme et du cinéaste français qui l'a le plus inspiré, Claude Lelouch.
L'interview de 7h50.
Demain matin sur France Inter, avec Ryan Gosling.
Il est 19h21 sur France Inter et on n'attend pas plus longtemps pour vous retrouver en direct de Madrid, Fabienne.
Merci Hélène, absolument, c'est reparti.
Radio Star Berlin,
European Union,
Europa,
Democratia,
Solidarność.
Este es un momento para que Europa despierte.
France Inter, la radio des européennes, en direct de Madrid.
Quelle chance nous avons de nous sentir unis par l'amour de nos patries, par l'amour de nos libertés en tant que peuple, par l'amour de nos familles, par l'amour de nos racines et par l'amour de la foi de nos parents. Et quand vous vous battez pour cela, je ne doute pas que vous serez d'accord avec moi, toutes les peurs disparaissent. Et je pense qu'il est très important que nos adversaires et nos ennemis sachent que nous n'avons pas peur, que nous sommes prêts à nous battre ensemble, que l'avenir n'est pas écrit et que la seule chance qu'ils ont de nous vaincre et que nous abandonnions et cela n'arrivera jamais.
Voilà, l'homme que vous venez d'entendre s'appelle Santiago Abascal, c'est le leader de Vox. On a un peu parlé de cet homme et de son parti dans la première heure de cette édition spéciale. On va s'y appesantir. Ce que vous avez entendu là, il l'a dit ce week-end, il était invité par Viktor Orban. Et en quelle compagnie? Il y avait l'ancien Premier ministre polonais du PiS, il y avait le Hollandais Geert Wilders, il y avait le président du Vlaams Belang belge, il y avait le FPÖ autrichien, accessoirement d'ailleurs le fils de Jair Bolsonaro, et deux ministres israéliens, tous dans ce qu'ils appellent, dans ce qu'Orban appelle une no-walk zone, et tous adeptes de Donald Trump. Ça pose un peu le personnage de Santiago Abascal. On va y revenir tout de suite. Je vais vous représenter les gens qui sont autour de la table. Guillermo Fernandez-Vasquez, rebonsoir. Vous êtes resté avec nous. Merci. Toujours maître de conférences en sciences politiques à l'Université Charles III de Madrid, et vous êtes spécialiste des nouveaux phénomènes populistes en Europe, et ça nous intéresse grandement pour cette partie-là. Bruno Aguilera-Barchet est resté également. Vous êtes toujours directeur de l'Institut des études juridiques internationales à l'Université Juan Carlos. À l'Université Juan Carlos aussi, Agnès Garcia Sayar, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, responsable de projet à l'Institut donc des études juridiques et internationales. Est-ce qu'on peut d'abord, pardon, Mathieu de Taillac est resté lui aussi, c'est qu'il est à ma droite et quand même je ne le vois pas, mais je sens bien qu'il est là. Hein. Voilà, donc vous en prie, restez. Est-ce qu'on peut rapidement revenir en arrière, Guillermo Fernandez-Vasquez? C'est qui Santiago Abascal, en fait? Pardon de le dire comme ça. D'où il sort?
Il sort du Parti Populaire, du Parti Populaire Basque, et donc
de la droite traditionnelle.
Donc de la droite traditionnelle et Vox est donc une scission. Au début, c'était une scission droitiste du Parti Populaire, et très marquée par la violence de l'État, de l'organisation terroriste. Et une scission du Parti Populaire qui a été créée en 2014, décevue par les gouvernements conservateurs de Mariano Rajoy.
Et presque sous les radars pendant extrêmement longtemps, on a même cru que l'Espagne était immunisée contre l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe en 2018 pour que le bond soit aussi spectaculaire?
deux phénomènes très importantes. D'abord, la crise politique catalane, les référendums en Catalogne et toute la séquence de l'automne 2017. Ouais. Et puis la motion de censure contre le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy et la montée au pouvoir ou de Pedro Sanchez, c'est-à-dire le socialiste, appuyé justement par l'extrême gauche et par les indépendantistes basques et catalans qui avaient appuyé les référendums, c'est-à-dire, et donc une partie de la droite espagnole a senti que c'était une trahison. En plus, il y a eu en Espagne, dans l'histoire politique récente en Espagne, quelques mentions de censure, mais aucune avait triomphé jusqu'à ce moment-là. Donc il n'y avait pas une culture politique là-dessus.
Bruno Aguilera-Barcher, on l'a entendu, 2018, après le référendum et l'énorme explosion en Espagne qu'a été le référendum catalan en 2017. Est-ce que ça veut dire que sans ce référendum, pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas de Vox sans ce référendum ou est-ce qu'il y a un autre Vox ou serait arrivé plus tard ?
Moi, je pense que l'indépendantisme catalan est quand même déterminant concernant l'extrême droite, qui trouve, parce qu'il y a une partie de l'électorat qui trouve que la droite a été trop molle vis-à-vis des indépendantistes. Et c'est ce qui a déclenché, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça, c'est ce qui a déclenché Vox, qui se dégonfle dernièrement. Là, faut le dire aussi, hein, parce que le PP est en train de faire une politique beaucoup plus intelligente, entre guillemets. Mais,
plus intelligente ou plus droitière ? Et du coup, est en train de manger sur les plates-bandes de Vox.
Il navigue entre deux eaux, c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que... peut-être qu'ils ont sont un peu plus à droite et c'est ça qui dégonfle un peu notamment à Madrid. Vox n'a pas de représentant, il n'est pas déterminant.
Alors on verra où ils sont effectivement, mais je vous ai vu réagir Agnès Garcia-Sayard à ce que dit Bruno Aguilera.
C'est-à-dire, je pense que le PP, Vox se dégonfle parce que le PP, en tout cas l'appareil dirigeant et notamment l'appareil de Madrid sont plus proche de Vox qu'il n'était d'un PP plus modéré. Donc c'est clair que le PP est en train d'appliquer une politique beaucoup plus proche de Vox que d'une droite modérée comme c'était le cas. Et Feijóo est très, je pense, très...
Feijóo, le leader du PP, donc
oui,
du Parti Populaire.
Contraint à cause de, par exemple, Díaz Ayuso et certains leaders du Parti Populaire qui... ont une vision plus Vox, plus à droite que d'habitude.
Sur quel thème, notamment Mathieu de Taillac, vous diriez qu'il y a, eu des vases communicantes, on va dire, entre la droite traditionnelle et l'extrême droite ? Est-ce que, notamment, le thème central de l'immigration en fait partie ? Sur quel thème est-ce que le terrain est grappillé ?
Il y a sans doute des thèmes et il y a peut-être plus des tons de discours. On parlait du PP de Madrid, leur leader, Isabel Díaz Ayuso, a un discours avec derrière un conseiller qui est maintenant connu dans l'Espagne tout entière, un discours de rentre dedans quoi. La dernière ou l'avant-dernière campagne, c'était socialisme ou liberté, puis communisme ou liberté, parce que le patron de Podemos, Pablo Iglesias, se présentait face à elle. Donc on n'est pas dans l'analyse politologue fine, le discours du gros rouge qui tâche quoi, si vous voulez. Et c'était ça que elle a pas agité un danger de l'immigration ou de l'islam qui sont des thèmes chers à Vox. Il y a aussi peut-être quelque chose en dehors de Vox. L'Espagne, c'est toujours un petit peu compliqué à lire dans les régions qu'on appelle périphériques, parce qu'il y a les deux axes. Il y a l'axe gauche-droite et il y a l'axe espagnolisme entre guillemets ou jacobinisme, centralisme face à nationalisme catalan ou basque, etc. Mais on s'est quand même rendu compte aussi qu'il y a une partie, vous me corrigerez, politologue et expert, si je me trompe, il y a une partie de l'électorat de Ciudadanos qui est sur les thèmes de société plutôt libérale, sur je sais pas, sur le mariage homosexuel, sur la fin de vie, etc. Mais qui est très farouchement anti-indépendantiste, c'est comme ça qu'ils sont nés. Donc il y a aussi des gens qui sont partis au Parti Socialiste, il y a des gens qui sont partis au Parti Populaire, il y a des gens qui sont partis directement de Ciudadanos, donc théoriquement au centre, à l'extrême droite de Vox.
Partout où l'extrême droite émerge en Europe, et ça a été le cas, je ne l'apprends à personne ces dernières années,
dans à peu près tous les pays européens et le nôtre y compris. Partout, il y a un sentiment de déclassement, sentiment d'ascenseur social en panne. Est-ce que c'est aussi une case qui est cochée par Vox, Guillermo Fernandez-Vázquez, et c'est là qu'on va chercher son électorat ?
Je dirais pas, non, parce que si l'on regarde, Vox n'était né de la crise économique de 2009, ouais. 2008.
Et de la crise économique et Podemos chez Vox.
Et Podemos, et en quelque sorte aussi Ciudadanos, mais bon, Podemos. Non, non. Et Vox est né d'une sensation de crise de l'identité nationale, c'est-à-dire... Ouais. Je pense que après les événements en Catalogne, une partie de la société espagnole a eu le sentiment que le pays était en train de se rompre, ouais. véritablement. Et donc, ça a touché la droite, c'est... évidemment, mais aussi la gauche, une partie de la gauche.
Donc c'est drapeau contre drapeau, en fait.
Ouais, effectivement.
On le disait, donc sentiment de déclassement, pas forcément, Bruno Aguilera-Barché. Réaction culturelle aussi, on parlera féminisme tout à l'heure à la fin de cette première heure, mais réaction culturelle aussi face à une Espagne qui avance différemment, face à une espèce de nostalgie, je veux surtout pas employer de terme un peu trop fort, et pas maintenant dans cette partie de l'émission, mais une espèce de nostalgie masculiniste, tout ça dans le package de Vox. Est-ce que ça compte aussi, ça rentre dans le gros pot de Vox, en fait?
Oui, absolument, mais je pense que Vox ne serait pas important s'il n'y avait pas le problème indépendantiste, ouais. et le problème d'identité nationale qui était en jeu. Vox serait un parti qui n'aurait presque pas de représentation, qui est au fond de succès spectaculaire, entre guillemets, de Vox les dernières années.
Alors, spectaculaire, effectivement, vous pouvez le dire, hein, parce que 10 ans d'existence à peine, et puis une augmentation à partir de 2018. Ce qui est notable aussi, et si on compare encore une fois Agnès Garcia-Sayer avec ce qui se passe dans les pays d'Europe autour, c'est que souvent, d'abord, ce qui se passe quand émerge l'extrême droite, la droite traditionnelle recule, dit non, il n'y aura pas d'alliance. Alors là, on a l'impression que les digues ont sauté, mais tout de suite, avec le Parti Populaire. Avec la droite traditionnelle. On a fait des alliances très vite, en fait.
Oui, en fait, c'était le seul parti avec qui ils pouvaient pactiser pour obtenir le gouvernement. Donc, ils présentent une Espagne très homogène, une Espagne où la Catalogne, le Pays Basque n'aurait pas vraiment d'importance, une Espagne qui parlerait que l'espagnol. Et ça, je crois, donc, ils ne pouvaient pas pactiser avec... le PP ne pouvait pas pactiser avec ERC, bien sûr, ils sont de gauche, mais même avec le PNV, qui est quand même un parti de droite, ou Junts, qui est aussi un parti de droite, mais c'était impossible de pactiser avec ce groupe-là tant qu'ils sont liés à Vox.
Mais on dit cependant que l'une des raisons pour lesquelles finalement c'est Sanchez qui a gagné les élections en juillet 2023, c'est précisément parce que le Parti Populaire s'est jeté sur des alliances avec Vox, et que s'il s'était jeté un peu plus discrètement, on va le dire comme ça, Guillermo Fernandez-Vázquez, peut-être que les choses se seraient passées différemment.
Oui, bien sûr. Je pense que Vox a été très, très intelligent en créant le cadre que en Espagne il manque de liberté, que avec la gauche et avec le féminisme notamment, on peut pas dire tout. La liberté d'expression est en danger.
Alors,
et donc
on ne peut plus rien dire. Donc
on ne peut plus rien dire. Alors que une fois que Vox est entré au gouvernement régional avec le PP, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de retirer les drapeaux LGTB ou interdire de pièces de théâtre. Mm-hmm. Et donc le cadre et les libertés sont en danger et retourné contre eux. Et donc il y a eu une certaine réaction de la gauche sociologique ou plus ou moins diverse contre une réaction où Vox a créé de la peur.
Alors, vous m'arrêterez si je me trompe. Moi, j'ai compté 5 régions, 144 mairies, parce que c'est à peu près ça, qui sont co-dirigées par Vox. Pardon, est-ce que ça marche? En fait,
pas toujours.
Ouais.
Pas toujours, mais enfin, je pense que les intérêts communs sont plus forts que les divergences et ils n'iront pas l'alliance.
Ça marche pas trop mal pour le PP, parce qu'ils... Ils leur ont donné en général ce qu'ils leur demandaient. Et au départ, ils voulaient surtout les ministères régionaux qui correspondaient à ce qu'ils appellent leur bataille culturelle. C'est du Gramsci dans le texte, relu par l'extrême droite. C'est-à-dire que sur l'antiféminisme, sur la relecture de l'histoire et donc du franquisme et de la guerre civile.
Et sur la langue.
Sur la langue.
Très important.
Espagnole face aux langues régionales.
Sur les clivages urbains-ruraux. C'est-à-dire que les box a
demande l'agriculture, oui, demande l'aménagement du territoire.
Exact.
Et en général, c'est comme souvent dans les nouveaux partis, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de gens administratifs qui savent faire tenir une administration. Donc le PP s'est dit, ça ne va pas être facile au début, mais a priori, on va pouvoir les contrôler. Ce n'est pas forcément un mauvais pari.
Une chose que je voulais dire, c'est que le PP a perdu les élections de juillet 2023 par excès de confiance.
Alors,
voilà, absolument. Il a fait une très mauvaise campagne à la fin, et c'est ce qui a fait que Pedro Sánchez est un nouveau président du gouvernement.
Alors,
c'est pas tellement Vox, c'est lui-même, c'est le PP qui a vraiment raté sa dernière partie de campagne et qui s'est effondré quand il avait en principe une majorité plus ou moins confortable.
L'Espagne, on l'a dit, l'un des derniers pays d'Europe à avoir un parti d'extrême droite. Ils restaient les voisins du Portugal. Deux histoires un peu similaires, deux dictatures qui prennent fin à peu près au même endroit. Le Portugal, lui aussi, a son mouvement désormais qui s'appelle Chega. Et je voudrais justement qu'on puisse jouer un peu avec les comparaisons. Vous nous direz d'ailleurs si ça a du sens ou si on n'en a pas. On va écouter ce qui se passe là-bas chez vos voisins avec Julie Pietri qui va nous le présenter, ce Chega. Un Chega qui, nous dit-elle, n'entend pas faire de la figuration.
Oui, et c'est un parti qui veut gouverner aujourd'hui, qui vise clairement le pouvoir. Rui Afonso est député Chega, basé à Porto.
Oui, on a eu une croissance énorme. Nous sommes le parti qui, au niveau national, progresse le plus.
Chega, c'est un parti anti-élite, anti-immigration, anti-Rome et un parti encore en définition, explique Carlos Jalali. Il est professeur de sciences politiques à l'université d'Aveiro.
Pour le moment, Chega, c'est surtout un parti anti-système. Il faut nettoyer, changer le système politique. Les politiciens sont tous corrompus. Et donc, c'est un parti que a pu mobiliser cet électorat avec une stratégie de communication politique très efficace.
Give it to me, like. Mon nom est André Ventura.
Sur les réseaux sociaux comme à la tribune, Chega manie l'outrance et la provocation. Le leader du parti, André Ventura, a même osé crier en 2021 « Dieu, patrie, famille, travail », reprenant largement la vieille devise de la dictature salazariste.
«
Nous sommes un parti profondément démocratique. Nous comparer à la dictature, ça ne sert à rien », réagit pourtant Rui Afonso, le leader de Chega à Porto.
« Non tem qualquer nostalgia.
Je n'ai aucune nostalgie de l'époque coloniale, mais on a conquis des pays, et maintenant, non. C'est nous qui sommes quasi occupés par tous ces gens qui viennent travailler ici. Ce que nous disaient nos grands-parents, c'est qu'on vivait très bien dans les colonies et dans une liberté extrême.
Une réécriture décomplexée de l'histoire qui n'étonne pas Carlos Jalali, le professeur de sciences politiques.
La relation du Portugal avec son passé est une relation compliquée. Il y a eu l'esclavage, mais le Portugal avait fait ça avec une mission civilisationnelle. Et c'est un discours qui n'a pas vraiment été changé pendant la période démocratique.
C'est ce que fait Chega, dit-il, mettre en lumière des idées qui existent dans la société, mais qui n'avaient pas, jusqu'à maintenant, été autant utilisées politiquement.
Merci à Julie Pietri. Bruno Aguilera-Barchet, je me demandais si... On se regardait d'un bout à l'autre de cette péninsule ibérique justement pour comparer ce genre de choses ou pas du tout?
Moi, je ne l'ai pas découvert dans Vox, un discours néocolonialiste. Agnès, je ne sais pas. Parce qu'elle est...
Agnès, elle fait bon.
Oui, ils veulent quand même réviser l'histoire, notamment la conquête de l'Amérique. Ils veulent une histoire beaucoup plus blanche, beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, légère sur le fait de la conquête d'Amérique, sur les colonies.
Mais ils ne regrettent pas les colonies quand même. Ils veulent. Ils sont contre la légende noire, c'est vrai, qui est quand même.
Mais c'est intéressant cette discussion que vous avez. Peut-être que c'est vous, Guillermo Fernandez-Vasquez, qui allez trancher en fait, vous, avec votre casquette de spécialiste des phénomènes populistes en Europe. La question qu'on se pose à chaque fois, et particulièrement chez vous en Espagne et chez les Portugais, c'est pareil en fait, parce qu'il y a l'histoire derrière qui parle. C'est alors mouvement fasciste, mouvement populiste, les deux, nostalgie du franquisme, nostalgie du salazarisme. On a du mal à savoir. Peut-être qu'il faut arrêter de se poser ce genre de questions, en fait, au final.
Si les questions de s'ils se rassemblent ou pas.
Par exemple, est-ce que ça va chercher aussi dans cette histoire-là?
Ah oui, non, mais je suis d'accord sur le fait que Vox et Chega parlent aussi du passé, essayent de révaloriser le passé colonial. C'est-à-dire, Vox, par exemple, Vox a créé un terme qui s'appelle ibérosphère pour essayer de avoir pour essayer d'avoir des relations internationales avec les partis des droites en Amérique latine, par exemple. C'est quand même bizarre, voilà, dingue, que pour le président de l'Argentine, Javier Milei, son allié n'est pas Feijóo, n'est pas la droite classique espagnole, ouais. et Abascal. D'ailleurs, il va venir à Madrid dans 15 jours. Et pour beaucoup, plusieurs leaders de droite en Amérique latine, leur allié principal en Espagne n'est pas les partis populaires, les Vox. Donc il y a une révalorisation du passé, de l'héritage espagnol en Amérique latine, de l'Empire, etc.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous, on a plutôt tendance à regarder donc du côté européen en se disant, mais alors, avec qui s'allient ces gens-là, ces gens de Vox, en Europe, au Parlement, ça ressemble à quoi? Ça va ressembler à quoi? Et surtout, si leur score est important, on va y aller faire un tour en Hongrie, où nous étions tout à l'heure, parce que c'est de là que parlait le leader de Vox à l'instant. Pain béni pour le leader hongrois, effectivement, qui voulait réunir cette extrême droite autour de lui, il l'a donc fait ce week-end. Il rêve que ces partis de droite-là deviennent la troisième force du Parlement, donc derrière le PPE, derrière les sociaux-démocrates. Allons-y. Donc, il a sa photo, Orban. Qu'est-ce qu'il s'est dit précisément pendant ce rendez-vous? Florence Labruyère nous le raconte.
Eh bien, on a eu un discours très combatif de Viktor Orban ici à Budapest, prononcé à guichet fermé, car les journalistes hongrois et étrangers étaient interdits d'accès. On vous accueillera le jour où vos médias seront moins woke, avaient dit les organisateurs. Alors pour Viktor Orban, le monde se divise en deux camps. D'un côté, les méchants, les progressistes, les libéraux, et de l'autre, les gentils, les souverainistes, autrement dit l'extrême droite. Les libéraux ont apporté la guerre et le chaos, ils encouragent la migration. Aux États-Unis, ils se servent des tribunaux pour écarter Donald Trump de la course électorale. Eh bien, ils font pareil en Europe. Ils utilisent les institutions pour nous opprimer, a dénoncé Orban. Selon lui, les souverainistes sont victimes d'un complot gauchiste et il faut battre ces gauchistes qui dominent Bruxelles. Il faut donc gagner les élections européennes. Alors, un discours très applaudi par la fine fleur de l'extrême droite, Santiago Abascal, mais aussi Mateusz Morawiecki, l'ancien premier ministre polonais, André Ventura, le chef de Chega, Fabrice Leggeri, candidat du Rassemblement National, et Viktor Orban se pose en chef de file de cette extrême droite européenne. Il a d'ailleurs conclu son discours avec un « Make Europe Great Again », car le modèle d'Orban, c'est vraiment Donald Trump.
Est-ce que, Guillermo Fernandez-Vázquez, est-ce qu'il a son groupe Orban, en fait, quand on entend là, qu'on voit ces émergences-là, est-ce que vous vous dites, vous, il peut l'avoir, ce groupe parlementaire d'ultra-droite que pour l'instant, il avait échoué à faire, puisqu'ils sont tous répartis, l'extrême droite au Parlement européen. Il peut l'avoir là ou pas?
Il peut. Jusqu'au présent, c'était très compliqué parce que le parti qui compose SR et Identité et Démocratie ont des différences par rapport à la politique économique, par rapport à la relation avec les États-Unis ou la Russie, par rapport à quelques questions. Mais c'est vrai que le leadership de Orban et son charisme pourrait surmonter ces différences entre les partis de la droite radicale ou de l'extrême droite européenne.
Il y a quelque chose qui m'étonne, moi, dans ce fameux rassemblement, il y avait no immigration, no gender, no war, donc pas d'immigration, pas de genre et pas de guerre. Où est Vox sur la guerre en Ukraine, par exemple, Bruno Aguilera-Barché?
Vox, je pense qu'il est complètement anti-Poutine et qu'il voudrait quand même une victoire éclatante de l'Occident contre ce néo-tsarisme poutinien. Là, il est très clair, je pense.
Et ce qui le différencie donc de Viktor Orban et qui dit jusqu'à quel point ce groupe-là n'est pas fait et pour l'instant n'existe pas.
En même temps, c'est vrai que Vox ne s'exprime pas trop sur cette question.
Et j'allais y venir, Mathieu de Taillac, plus généralement, et si on quitte Vox un instant, est-ce que l'Europe, dernier rempart contre la Russie, c'est beaucoup là-dessus qu'on fait campagne, nous en France notamment, et pas seulement l'Europe de la défense. Est-ce que c'est comme ça qu'on en parle ici des élections européennes ou pas du tout?
On ne parle pas beaucoup des élections européennes parce qu'on a eu les Basques et on va avoir les Catalanes avant. Et aux européennes, on ne parle pas toujours de l'Europe, probablement malheureusement. C'est, en général, c'est plus l'Espagne, la place de l'Espagne en Europe, comment défendre nos positions, etc. Quelles alliances on va pouvoir tisser. C'est assez récent que l'Espagne, déjà... parle anglais aux sommets européens. Pedro Sanchez, un de ses ministres, vient de le rappeler, bon, avec des termes un peu exagérés. Mais l'Espagne a eu, alors je vais peut-être me faire corriger, une position parfois un peu complexée. Moi, j'ai des diplomates français qui me disaient les Espagnols viennent nous voir en nous disant vous pensez comme nous, pourquoi vous ne défendriez pas nos positions? Et les Français leur répondent bah, attendez, vous êtes la troisième économie de la zone euro, allez-y, vous n'êtes pas n'importe qui, quand vous parlez, on vous écoute. Et c'est relativement récent, là, l'accord sur le gaz, par exemple, obtenu par Sanchez et sa ministre, la transition écologique, c'était sans doute une belle victoire espagnole. C'est pas si habituel que ça que l'Espagne parle d'elle-même.
Donc ça veut dire qu'il y a un petit sentiment d'infériorité, c'est ça l'idée, c'est ça
Je pense que l'Espagne a toujours été un pays. La droite espagnole a été foncièrement anticommuniste. Je vois pas Vox en train de défendre la Russie dans un conflit où c'est l'Ukraine va être européenne ou elle va tomber dans le tableau de Xi Jinping, Poutine, etc. Donc c'est pas la même chose. Tandis que Orban, quand même dans un pays qui a quand même une grande tradition communiste et qui il y a une certaine nostalgie du communisme encore dans ces pays d'Europe de l'Est.
Un tout dernier mot avant de changer complètement de sujet en cette deuxième heure d'édition spéciale ici à Madrid. Nous, ce qui secoue beaucoup en ce moment en France, ce sont les manifestations pro-palestiniennes, ce sont nos relations avec Israël et qu'est-ce qu'on pense de ce conflit et comment on y va. On a bien entendu que Sanchez faisait partie de ceux qui voulaient demander la reconnaissance de la Palestine, mais on n'y est pas encore. Mais en revanche, de manifestations, de campus qui se soulèvent, pas du tout dans ce pays, l'Espagne. Je vous vois faire non avec la tête tous les quatre.
Non, ça n'existe pas. Enfin, moi j'ai un fils qui est très à gauche, qui est tout à fait pro-palestinien, et il a un groupe de gens qui sont comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau de l'opinion publique espagnole, il n'y a pas de manifestation. Et il est désolé à chaque fois de dire ça, mais c'est vrai.
Vrai que ça n'existe pas. Rapidement, Guillermo.
On dit toujours que c'est l'un des pays les plus pro-palestiniens de l'Europe, mais c'est vrai au niveau de l'opinion publique, mais ça ne se voit pas au niveau de la rue. Il n'y a pas de gros manifestations, ni de campus.
En tout cas de manifestations qui peuvent être brillantes autour de ces sujets comme on en voit chez nous en ce moment
aux États-Unis
en France et parfois aussi ailleurs. On est ensemble jusqu'à 20h, cette édition spéciale continue.
France Inter, la radio des européennes. In the European Union. Fabienne Sintès.
Et toujours en direct du café commercial ici à Madrid. La femme que vous allez entendre maintenant, nos invités qui sont là autour de la table savent forcément qui elle est. Et nous en France, moins, curieusement, parce que c'est la cinéaste la plus primée d'Espagne, réalisatrice, scénariste, catalane. Elle sait faire entendre sa voix. Elle s'appelle Isabel Coixet. Je vous regarde, voilà, tout le monde fait oui maintenant avec la tête. Elle a reçu, c'était ce matin, et c'est comme ça qu'on a pu la rencontrer avec Marina Foïs. D'ailleurs, le prix Dialogo entre la France et l'Espagne, elle avait déjà reçu un prix européen. À quel point cette catalane, justement, se sent-elle européenne, sa réponse?
Je me sens européen, oui. Je sais que, même si j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis, c'était toujours d'un point de vue européen. Mes racines sont européennes, mes références, même si j'adore, oui, la culture anglo-saxonne, et aussi de la culture orientale, parce que j'ai fait aussi un film au Japon, et j'ai vécu un an au Japon, mais il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans un petit square, mon quartier, à Gracia, tu trouves une lumière que tu trouves aussi dans un petit quartier en Sicilie, ou à Limoges, même à Limoges. Il y a quelque chose qui a une espèce de familiarité sur la couleur de pierre et la vieillesse de pierre, oui.
Quand
On vous a beaucoup entendu au moment de la crise catalane, puisque vous êtes de Barcelone. Il y avait ça aussi dans votre discours, il y avait quelque chose qui disait tout ça, de toute façon, n'a aucun sens en ce moment, aujourd'hui, créer ce genre de frontières, et surtout dans l'Europe telle qu'elle se présente aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi peut-être la couleur de ce continent.
Oui, c'est ça que j'ai dit mille fois, personne m'a écouté, parce que tout ce qui s'est passé en Catalogne, c'est... Je crois que c'est la pire partie de la nature européenne, comme caractère humain. Des gens qui ont envie de mettre des frontières en plus, ce sont des cons, et ça je le dis, je le pense encore. Il faut être fier d'avoir fait un travail sur soi. Il faut pas être fier de « non, je suis né ici, c'est le jambon, c'est le meilleur, et les vents, et tout ça. » Écoute.
C'est marrant comme on a l'impression que cette histoire-là est toujours dans les blessures espagnoles aujourd'hui, et que même tout ce qui se passe dans la politique espagnole aujourd'hui trouve en partie sa source dans cette crise catalane, et y compris là, au moment où on se parle, en fait, avec le psychodrame qu'on vient de traverser, que vous venez de traverser ces 5 derniers jours.
Je crois que il y a des blessures, oui, mais il n'y a pas la volonté de guérir ces blessures. Il y a la volonté de aller plus profond dans cette blessure. Il y a presque un envie sauvage de pas de cicatriser les blessures. Et ça, je trouve que c'est horrible.
Particulièrement, donc peut-être en ce moment dans votre pays, vous avez suivi même de loin ces fameux 5 jours où Pedro Sanchez a pas dit s'il restait, s'il partait. Il finit par rester, mais j'ai envie de dire peu importe. Qu'est-ce que ça dit de l'Espagne d'aujourd'hui, ça, à votre avis ?
Ce qui s'est passé, c'est, je crois que c'est très intéressant. Et comme président demande de temps pour penser, pour réfléchir, c'est un bon moment pour dire, bon, peut-être toute cette crispation, il faut l'arrêter.
Il y a quelque chose de fascinant et de paradoxal dans cette société espagnole, c'est que donc il y a ce que vous décrivez là, et à la fois vous êtes en avance sur beaucoup de sujets féministes et sociétaux, et on a l'impression au fond qu'on se retrouve aujourd'hui face à une Espagne où il y a deux forces qui poussent la société, qui veut aller plus loin, qui essaye, et toute une autre partie qui pousse exactement dans l'autre sens, avec de plus en plus de succès, que c'est le cas de l'extrême droite. Et on ne sait pas à la fin qui va gagner ce combat-là. Est-ce que vous avez le sentiment de cette société qui pousse dans les deux sens sans savoir où ça s'arrête, hein ?
Les deux forces sont toujours dans la... C'est pas seulement dans la société espagnole, dans toutes les sociétés. Mais je l'espoir que toutes les choses qu'on a acquises, ça va être très difficile d'aller en arrière. Mais il faut être alerte.
Est-ce que les intellectuels le sont ? Vous l'êtes. Vous avez même fait un documentaire autour de MeToo et du MeToo au théâtre ici. Donc vous l'êtes. Est-ce que les intellectuels espagnols le sont ? Est-ce qu'ils sont à ce rendez-vous de l'histoire-là, à votre avis ?
Les intellectuels, je crois que nous sommes fatigués, mais en même temps, nous sommes alertes. Et bon, je ne sais pas si l'intellectualité a le pouvoir ou l'influence qu'on avait il fait 30 ans, mais on va essayer, au moins.
Merci beaucoup.
Merci
mille fois. C'est un plaisir, vraiment. Merci beaucoup.
Les intellectuels sont alertes, mais ils sont aussi fatigués. Bonsoir, Pilar Aguilar.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente du Parti des féministes au Congrès. Moi, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur ce que vient de nous dire à l'instant cette réalisatrice sur ces deux Espagnes qui poussent en même temps. Et c'est vrai que à certains égards, et sur le féminisme, vous êtes un exemple pour nous sur les féminicides, sur les premiers tribunaux, sur les policiers formés, sur les bracelets anti-rapprochement. Est-ce que vous avez d'abord... est-ce que vous savez que vous êtes un exemple pour nous ? Vraiment, vous en avez la conscience ?
Oui. Enfin, oui. Maintenant,
sachez-le.
J'ai des nuances hein, à faire depuis les dernières années. Mais c'est vrai que le féminisme en Espagne est fort, très combatif, très. Et c'est une force très militante. Et en effet, par exemple, depuis... quand la loi est passée, la loi contre les violences faites aux femmes en 2004, c'est vrai que le féminisme était très axé justement sur la violence faite aux femmes et la lutte contre.
C'est intéressant ce que vous dites. C'est plus difficile aujourd'hui. Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui?
Écoutez,
est-ce que ça résume ce qu'on vient de dire précisément dans le début de cette heure?
D'une part, par exemple, les assassinats ont augmenté pendant les dernières années. La violence faite aux femmes a augmenté aussi. Par exemple, en 2023, 15,1 plus d'agressions sexuelles. C'est quand même beaucoup, hein? 15,1. Et presque 19 980, je sais pas quoi, des agressions. Ouais. Alors, quand même, c'est pas n'importe quoi.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour de bâton, comme on dit les féminismes, un backlash, et au fond, avec des résidus de la société patriarcale qui était la société espagnole?
Non, c'est pas des résidus. On continue à être une société patriarcale. Le problème, c'est que justement, il suffit pas d'une loi. La loi, c'est très important, hein. Mais d'une part, elle n'a pas été, disons, ajournée. Revue en fonction de choses qui ont marché, qui n'ont pas marché. Par exemple, 42% de femmes assassinées avaient déjà porté plainte. Mm-hmm. Ça veut dire que là, il faut faire quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perception par rapport à la police, les juges, les avocats ne perçoivent pas la gravité de... Et donc... Par exemple, ça, la formation des juges, etc. Et puis, on a laissé de côté complètement l'éducation au centre dans l'enseignement. Ouais. Maintenant, c'est une chose, l'éducation pour l'égalité. Et puis, les campagnes de conscientisation. Par exemple, une autre chose effarante aussi, c'est que maintenant, la perception citoyenne sur les violences faites aux femmes a baissé.
C'est-à-dire qu'on ne s'en préoccupe plus ou on pense qu'il n'y en a plus?
Ben oui, parce que justement, les gens laissés à eux-mêmes, si on ne leur parle pas, si on leur dit, si on ne les explique pas, si on ne les éduque pas, si on ne leur répète pas, ben, ils écoutent justement les hommes, les pauvres, ils sont...
Alors justement, là-dessus, Pilar Aguilar, la grande affaire ces dernières semaines, derniers mois en Espagne, c'est celle de Luis Rubiales, qui est l'ancien président de la Fédération Espagnole de Football. On se souvient de cette histoire de baiser. Il a mis beaucoup de temps à partir, beaucoup de temps à s'excuser, mais surtout, très vite, il en a fait une revendication politique. Et est-ce que vous diriez, au fond, que ça n'aurait pas été possible il y a encore quelques années, en fait, de faire une revendication politique de cet épisode-là, comme il l'a fait, lui?
Probablement, en effet, parce que, je vous dis, l'ambiance sociale, la perception a changé. Donc, voilà. Il y en a qui disent maintenant, bon, tout est pratiquement bien, c'est-à-dire vous avez réussi à être partout, par exemple à faire du cinéma, comme Coïset, etc.
Et le donc, fameux documentaire d'Isabelle Coïset sur le cinéma et sur le MeToo au cinéma.
Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, il y a ça, il y a donc le fait de se laisser aller un peu, bon. Et alors, moi, je crois que le féminisme continue, hein, parce que nous, on est vraiment très, très battante. Hein. Ah, je crois que c'est le mouvement le plus engagé qui existe en Espagne. Et parce que les écologistes, nous, on est là, bon. On se fatigue pas.
Et enfin, tiens, contrairement à Isabelle Coïchette, qui se fatigue un petit peu, elle l'a dit, on a bien entendu que vous ne vous fatiguiez pas. Puisqu'on a commencé cette émission en parlant de Vox, est-ce que vous diriez que Vox fait son beurre, justement, là-dessus, en ce moment? Que Vox fait son miel, en ce moment, sur ces idées-là, sur un retour du masculinisme, sur, on va pas laisser les hommes être laissés pour compte. Hein.
Il se raccroche à cette espèce de ritournelle, mais je ne crois pas que ce soit que Vox grandit à cause du féminisme. Je crois que simplement les hommes, beaucoup d'hommes, ou pas mal d'hommes, pensent cela. Et maintenant, quand Vox le dit, ils osent le manifester. Mmh. Parce qu'avant, ils étaient comme toujours.
Est-ce qu'il dit quelque chose, effectivement, quand ils osent le faire maintenant, qu'il dit quelque chose aussi de ce pays? On pourrait continuer à parler de l'Espagne, des élections à venir pendant longtemps. Je voudrais, puisqu'il nous reste une petite poignée de secondes, Mathieu Dautaillac, je voudrais que vous nous parliez de l'endroit où nous sommes, quand même, dans ce café commercial. On les remercie vraiment chaleureusement. On a beaucoup débarrassé leur table, hein, on a beaucoup poussé de choses ici. On est dans un endroit un peu mythique, quand même. Ça existe depuis 1887, cet endroit.
Oui, c'est le plus vieux café de Madrid, vous vous compte. C'est une institution culturelle.
pour le décrire sommairement, c'est un café assez élégant, parce qu'on voit un peu d'art déco,
un petit côté brasserie, si on peut faire la comparaison.
Parisienne aussi. Mais ça s'inscrit dans la tradition des cafés de tertulias. Les tertulias, au sens propre, au sens un peu noble du terme, c'était les débats littéraires et politiques que les Espagnols donnaient et organisaient dans les cafés. Celui-ci en faisait partie. On peut faire un peu de name-dropping. Il y a eu quand même le poète Antonio Machado au début du XXe, le romancier Camilo José Cela après la guerre civile. Arturo Pérez Reverte, lui, c'est un contemporain que nos auditeurs connaissent peut-être. Ils essayent de continuer. Ils continuent à participer à cette ville culturelle. Juste après nous, je crois qu'il y a un podcast qui va s'enregistrer. Il y a un festival de flamenco.
Il paraît qu'il y a eu une menace de fermeture et ça avait beaucoup ému effectivement toute la ville, et peut-être même au-delà de la ville d'ailleurs, Mathieu.
Beaucoup ému, oui, le quartier, puis la ville. Puis... Bon, après, il y avait des petites blagues entre ceux qui défendent l'existence d'un café et ceux qui vont effectivement prendre une bière ou un café au lait pour les aider à vivre réellement.
En tout cas, on est vraiment ravis de notre présence ici au café.